soir, Louis-Alphonse Coëgallo, élu gouverneur de la province de l'Équateur. Se confiant à la presse juste après l'annonce des résultats, Coëgallo a affirmé que la population de l'Équateur peut compter sur lui pour l'unité de la province. Pour sa part, son adversaire Jean-Lucien Boussa dénonce la corruption organisée d'après lui par la majorité au pouvoir. Comment analyser l'élection du nouveau gouverneur de l'Équateur et quels sont les défis qui l'attendent? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce soir. Nos invités sont Chérubin Okende, président national du Parti politique Front Social des indépendants républicains FSIR et cadre de la majorité présidentielle. Monsieur Okende, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Maître Luila, député national de l'opposition. Il est secrétaire national chargé de l'idéologie et formation au MLC. Honorable Luila, bonsoir.
Et bonsoir.
Joseph Kongolo, analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir encore et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, à l'Équateur, c'est Louis-Alphonse Coëgallo Basseté-Guérémgo, candidat de la majorité présidentielle, qui a été élu hier lundi à ce poste. Le tout s'est joué au second tour face à lui, Jean-Lucien Boussa, cadre MLC, mais qui s'est présenté comme indépendant. Dominique Olombi, Mongapangue.
Louis-Alphonse Coëgallo, avec son colistier Sébastien Ipeto du PDC, qui a obtenu 76 voix sur 104 votants, a largement devancé son adversaire Jean-Lucien Boussa, qui a récolté 27 voix. On croyait, selon les pronostics des deux camps, que la partie serait serrée, mais la réalité de l'urne a prouvé le contraire. Coëgallo l'a largement emporté. Jean-Lucien Boussa, cadre du MLC, qui s'est présenté comme indépendant, en est à sa deuxième participation à cette élection. À la première, il avait été battu par Jean-Claude Bayindé, gouverneur sortant limogé. Quelques mandataires interrogés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de cette élection. C'est le cas de certains membres de la société civile. Pour les personnes abordées, Louis-Alphonse Coëgallo, comme Jean-Lucien Boussa, arrivé en tête au premier tour, répondaient tous deux au profil de l'homme qu'ils attendaient pour diriger la province de l'Équateur qui accuse un certain retard de développement. Comme ce fut le cas avec l'équipe Bayindé, l'Équateur reste sous la direction d'un exécutif issu de la majorité présidentielle. Et pourtant, la province était réputée dominée par l'opposition du fait qu'à l'Assemblée provinciale, la majorité des députés sont issus de cette partie. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Merci Dominique Wolombi. Pour le nouveau gouverneur, c'est plutôt une victoire de la démocratie. Se confiant à la presse juste après l'annonce des résultats, Coëgallo a affirmé que la population de l'Équateur peut compter sur lui pour l'unité de la province. On l'écoute dans ses propos recueillis par Régine Bokoumanzango.
Pour moi, c'est une grande consolation, c'est aussi un réconfort pour que je me dise que je suis parmi les miens et étant parmi les miens qui me soutiennent, nous allons ensemble relever les grands défis qui se posent sur le chemin du développement de la province de l'Équateur. Et je sais que la tâche est très difficile, mais si nous nous mettons ensemble avec la force de chacune et chacun et surtout avec le soutien de Dieu, nous allons réussir.
Jean-Lucien Boussa, candidat malheureux à cette élection, met quant à lui en cause la qualité de ce scrutin. Il dénonce la corruption organisée d'après lui par la majorité, allant jusqu'à condamner le comportement des députés provinciaux. Il est au micro d'Henri Lobondo Bokelo.
Je voudrais donc dire à la population congolaise que la démocratie d'argent n'est pas une démocratie. La démocratie où le chef de l'État lui-même organise la corruption pour conquérir des espaces et les députés provinciaux eux-mêmes qui ont fait de la corruption un mode de vie permanent n'est plus une démocratie. Je me pose la question de savoir si il est encore nécessaire d'aller aux élections dans ce pays. C'est ça la leçon que je tire de cette élection.
Chérubin Okende, vous êtes président national du Parti politique Front Social des indépendants républicains FSIR et cadre de la majorité présidentielle. Pour commencer, quelle appréciation faites-vous du déroulement de ce scrutin?
Moi, je crois que les choses ont été ouvertes. C'est, comme l'a dit le gouverneur Coëgallo, c'est la victoire de la démocratie. Le peuple de l'Équateur, les députés provinciaux de l'Équateur ont prouvé à la face de la nation leur maturité politique. Ce que je trouve regrettable, c'est un peu les galéjades de mon ami Jean-Lucien Boussa, l'honorable Boussa. Il doit être conséquent avec lui-même. Lorsqu'il commence à imputer, même au chef de l'État, d'organiser la corruption, je trouve ça regrettable de la part d'un député national. Il faut que nous ayons la correction et la conséquence des actes que nous posons. Déjà lui-même, l'inconséquence, c'est qu'il est allé en indépendant pendant qu'il est député national du MLC, ça crée déjà un problème. Donc moi je pense que nous n'avons pas, nous de la majorité, de pouvoir organiser une quelconque corruption. Lorsque nous,
la donc chance n'est vous, pas de notre l'argent côté. L'argent n'a pas circulé.
Ben écoutez, aujourd'hui on doit se demander, hein, il y a une brigade de recouvrement qui est organisée à Mbandaka, mais c'est par qui? C'est pas par Koyagialo, en ce que je sache. Je crois que Jean-Lucien doit s'interpeller pour voir quelles sont les erreurs, parce que nous sommes en politique, il faut rester correct, politiquement correct. Donc aujourd'hui en Mbandaka, je vous informe qu'il y a une certaine brigade de recouvrement de ce que quelques candidats auraient donné ça et là, parce qu'aujourd'hui c'est la déconfiture, l'échec, ils sont en train de s'évertuer pour cela.
Et donc moi, vous voulez dire qu'il y a des candidats qui sont en train de récupérer l'argent qu'ils ont donné aux députés provinciaux pour les voter?
Je ne sais pas,
voter.
Voyons voir d'ici là, parce qu'il y a même des plaintes pour violation des domiciles de certains députés provinciaux. La procédure va nous éclairer davantage là-dessus. Je ne suis pas politicien de la dissension ou de la méprise, hein. Verbal, non, pas du tout. Donc moi je pense, revenons un peu à l'essentiel. L'essentiel, c'est que le peuple de l'Équateur a prouvé sa maturité politique, voudrait donc confier les destinées du pays, enfin de la province, à des mains expertes. Koyagialo, moi je l'ai connu lorsque j'étais étudiant à Lubumbashi, j'ai terminé vers les années 88, mais Koyagialo avait fait ses preuves à Lubumbashi. Et si dans d'autres provinces, au Kasaï, au Katanga, on réclame ce patriote, moi je crois qu'aujourd'hui, l'occasion lui est donnée de démentir un peu cet adage qui dit « nul n'est prophète chez lui ». Donc il est aujourd'hui appelé à servir nos compatriotes de l'Équateur avec beaucoup plus d'efficacité. Ce qu'il a fait ailleurs, aujourd'hui l'occasion lui est donnée de pouvoir le faire dans la province de l'Équateur. Et aussi, savez-vous que l'Équateur était devenu un peu la risée de la communauté nationale à cause des conflits inutiles, la politique de la médisance. Donc cette conflictualité, le peuple de l'Équateur, en ce que je sache, n'en a pas besoin. Donc, voyons voir ce que Louis-Alphonse Koyagialo va faire. C'est un homme d'État. Hein.
Voilà.
Lorsqu'il promet, il s'évertue à réaliser.
Les défis, nous en parlons dans la deuxième partie de cette émission chez Rubin Okende. Au premier tour, Koyagialo a obtenu 35 voix contre 22 pour Jean-Lucien Boussa. Au deuxième tour, il obtient 76 voix et Jean-Lucien Boussa 27 voix. Comment vous expliquez cet écart? Au premier tour, il y avait 16 bulletins nuls. Tout ça, vous mettez ça sur le dos de la maturité des députés provinciaux de l'Équateur.
Oui, les gens qui se sont abstenus en votant nul au premier tour devraient se déterminer. Et en plus, les gens regardent quand même le cursus d'un chacun. Je ne minimise pas mon ami Jean-Lucien, on est très bien avec lui, mais par rapport à Koyagialo, lorsque nous devons voir l'expertise, l'expérience, moi je pense qu'il y a quand même rationalité dans le choix qui devrait être opéré. Et ici, je ne voudrais pas, moi, condamner ou m'auto-flageller, hein, par rapport au choix que les députés provinciaux de l'Équateur ont pu réaliser. Je pense que nous allons voir, parce que chacun avait un projet de société, avait un programme qu'il avait décliné. Et si Koyagialo a pu convaincre tous les indécis du premier tour pour qu'ils puissent voter en faveur de sa maturité, sa compétence et son expérience, son expertise surtout, moi je crois que c'est faire œuvre utile. Voyons voir maintenant les défis qu'il y aura à relever.
Prenons pour vous, cher Rubin Okende, cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud-Kivu.
dit Tenzilonge de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Comme tout Congolais soucié de l'instauration de la vraie démocratie en RDC, je pense que l'élection de Koyagialo dans une province réputée d'opposition vient de confirmer le souhait de la MP d'autocratiser le pays pour s'éterniser au pouvoir.
Réaction, Chérubin Okende.
Je crois que, bon, je respecte le point de vue de M. Bilongué, c'est son point de vue, mais c'est un point de vue malencontreux. Lorsque, dans d'autres provinces, les candidats de la majorité ne gagnent pas, bon, on trouve bien une occasion pour essayer de tourner la majorité en dérision. Ma foi, il faut nous féliciter par question de stratégie politique et de message politique. Ici, ça serait faire quand même insulte au peuple de l'Équateur qui, à travers ses députés provinciaux, ont voté librement en faveur de Koyagialo. Donc, il faut que nous ayons quand même l'élégance de respecter le souverain primaire.
Maître Luila, vous êtes député national de l'opposition, également secrétaire national chargé de l'idéologie et formation au MLC. À vous également, comment vous avez apprécié le déroulement de ce scrutin, Chérubin Okende, de même à l'instar de Koyagialo, dit que les choses se sont passées de manière ouverte et démocratique.
Ah oui, merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord que vous puissiez rectifier mon nom. Je m'appelle Alexis Lenga, donc c'est Lenga, et non lui là. Donc, lui, il a peut-être ressemblé au nom d'un confrère avocat qui s'appelle Mouila. Je m'appelle bien...
Maître Lenga. Voilà, vous nous excusez d'avoir écorché votre nom. Allez-y, je vous en prie, vous avez la parole.
Maître. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, j'ai suivi Monsieur Chérubin Okende. Il semble faire une élection à la population de l'Équateur. Il dit que la population de l'Équateur est devenue à la maturité. La maturité de l'Équateur, c'est seulement à partir de l'élection de M. Koyagialo. Mais je dis non. La population de l'Équateur, le peuple de l'Équateur est mûr, comme toute la population d'autres provinces. Parce que je dois lui rappeler que l'élection du gouverneur, c'est une élection à second degré. Et l'élection à second degré, ça pose des problèmes en Afrique. Si nous sommes allés à une élection d'abord directe de députés provinciaux, et qui à leur tour doivent décider sur le sort de celui qui doit prendre le destin de la province, nous disons qu'un problème se pose. Mais puisque je dois aller rapidement, je pose la question à M. Okende, Chérubin, de savoir comment nous dire les noms de cette brigade de recouvrement des fonds distribués aux députés. Je ne pense pas qu'ils travaillent au service de sécurité. Pour qu'ils disent cela, nous attendons qu'ils le confirment auprès de l'opinion nationale. Et avant de vous donner les détails, je voulais dire rapidement que hier j'ai libéré de militants du MLC arrêtés injustement, parce que si on dit que si c'est le pouvoir qui gère les élections, je dis dans le sens élargi, c'est-à-dire l'ordre public, tout ça, si c'est le même pouvoir qui sécurise, qui organise les conditions des élections, nous disons que ça pose un problème. J'ai dit rapidement, et puis c'est Okende parle d'une brigade de recouvrement des fonds distribués aux députés, mais pendant que je continue à relaxer les militants des MLC arrêtés injustement, parce que c'est le pouvoir qui se trouve à l'Équateur qui a les conditions d'organisation de ces élections, parce que vous ne direz pas que c'est la CENI qui organise les conditions sécuritaires. Donc la CENI n'est que devant sa table pour organiser les élections. Donc Okende de dire aux enfants de l'Équateur, leur dire quelle est cette brigade et que la justice fonctionne, il est au courant de tout, minute à minute, comme la continuité du service de sécurité. Donc, brièvement, je voulais profiter de ce que Okende a dit pour donner cette information.
Maître Lenga.
Mais puisqu'il s'agit d'une élection du gouverneur qui vient de se passer, nous disons, monsieur le journaliste, que les élections à second degré, ces élections posent des problèmes en Afrique. Parce que vous-même, vous l'avez dit, vos correspondants à Mbandaka ont bien souligné que la province de l'Équateur, depuis la configuration issue des élections de 2006, que la province de l'Équateur est réservée à l'opposition. Parce que vous comptez le MLC, qui avait 38 députés, et vous trouvez un nombre de presque 12 députés de PPRD, vous trouvez à peu près 13 députés de PDC, qui étaient venus d'ailleurs du MLC. Donc, vous n'en revenez pas. Vous allez tout à l'heure pour dire que, est-ce que la démocratie, qui est la continuité de l'expression de suffrage direct de la population, parce que ces députés sont issus de ces suffrages directs, ils se trouvent dans un parti politique bien déterminé. Donc nous pouvons nous poser la question, comment est-ce que on peut passer d'une expression différente de la base à une expression qui, en tout cas, qui ne cadre pas avec l'expression. Il fallait que M. Chérubin Okende vienne à Kinshasa avec
Mbandaka
pour voir comment la population a accueilli cette élection.
Maître Lenga.
C'est comme
Maître Lenga. Maître Lenga, je voulais poser une question précise, mais on a l'impression de se perdre dans certaines considérations. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Joseph Kongolo, de votre point de vue d'analyste, comment vous avez perçu le déroulement de ce scrutin? Vous venez de suivre Chérubin Okende et Maître Lenga.
Bien, merci pour la question. Par principe, quand je fais une lecture objective des élections, je crois que c'est regrettable. Je dis bien, par principe, quand je fais la lecture objective, c'est regrettable de voir qu'une province comme la province de l'Équateur, la seule qui était dirigée par l'opposition, aujourd'hui, qu'elle puisse basculer, n'est-ce pas, dans la majorité. Évidemment, je crois que c'est une province, en espace d'une législature et demie, c'est une province qui a connu toutes les formes de crise. Je crois qu'elle a épuisé toute la liste des crises politiques. La crise institutionnelle, la crise des procédures, la crise de pouvoir, la crise d'autorité. Voyez-vous? Donc c'est une province qui a souffert du fait d'être de l'opposition. Il ne faut pas se cacher la face. Du fait d'être de l'opposition, elle a souffert de toutes ces crises. Aujourd'hui, je crois franchement que de la lecture objective des élections, je crois que c'est regrettable. Mais en fait, les élections en soi... Bon, on semble nous dire que ça s'est bien passé, évidemment, parce que c'est une
élection... Avant d'aller plus loin, Joseph Kongolo, est-ce que vous voulez dire que vous rejoignez pratiquement Teddy Tende Longué qui posait la question à Chérubin Okende tout à l'heure en disant qu'il dénonçait cette dérive autocratique de la majorité présidentielle? Est-ce dans ce sens-là?
Je ne voudrais pas responsabiliser ici la majorité présidentielle, mais c'est plutôt dans le chef de l'homme politique congolais. C'est cette culture politique. C'est cette fidélité aux engagements premiers. C'est cette fidélité à son idéologie, à l'engagement idéologique. Voyez-vous, c'est d'abord ça, la première chose, c'est l'homme politique congolais qui n'a pas su rester fidèle à son engagement idéologique. Ça, c'est la première chose.
En l'occurrence, les députés provinciaux de l'Équateur qui étaient majoritairement MLC.
Mais pourquoi? Premièrement, à cause du MLC lui-même. Le parti d'où a pour mission, première mission, c'est d'encadrer les élus et de former les élus. Tant que le parti n'arrive pas à former les élus, d'encadrer les élus, eh ben, il les abandonne à eux-mêmes. Ils sont dans l'errance libre, et là, comme la chef de M. Séguin, elle est allée à la montagne, il y a des loups. Et voilà comment ces députés ont été mangés par des loups. C'est en ce moment-là, pratiquement en secondaire, que je peux responsabiliser aussi la majorité. Pourquoi? Parce que, en faisant ça, si réellement cela est prouvé, elle est en train de fausser le jeu démocratique. Et là, il met la République entière en danger. On est en train de fausser le jeu démocratique. Et là, on met toute la République en danger parce qu'en fait, c'est une démocratie qui est déséquilibrée. À ce moment-là, il y aura, n'est-ce pas, un parti ultra-dominant et plusieurs autres partis ultra-dominés. En ce moment-là, c'est une démocratie déséquilibrée et je ne crois pas qu'on va atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. En 2030, un pays émergent, c'est pas avec une démocratie déséquilibrée qu'on va atteindre un état émergent en 2030.
Était-ce une erreur, Joseph Kongolo, de la part de Jean-Lucien Boussa de se présenter comme indépendant?
Ça montre la déconfiture des organisations politiques. Si c'est une stratégie, tant mieux. Mais au moins, déjà dès le départ, ça montre la déconfiture, n'est-ce pas, des organisations politiques. Un parti politique, si on a continué à raviver l'idéologie on aurait renforcé ce qu'on appelle la discipline civique à l'intérieur d'un parti politique. Et la discipline civique dans un parti politique, c'est celle-là qui consolide le parti. Voyez, c'est ça qui crée des solidarités agissantes au sein d'un parti politique. Malheureusement, c'est un parti qui n'a pas su maintenir, n'est-ce pas, cette idée force. Et c'est comme ça qu'il est complètement désintégré. Bon, je n'ai pas compris pourquoi M. Mboussa, qui est une personnalité, n'est-ce pas, du MLC, est allé se présenter comme candidat indépendant. Je ne sais pas pourquoi, mais de toutes les façons, cela dénote déjà de la déconfiture, n'est-ce pas, des organisations politiques. C'est pas seulement le cas du MLC. Nous savons que c'est un cas généralisé d'ailleurs.
Alors, dans la conférence de presse qu'il a tenue ce mardi, Jean-Lucien Mboussa avoue que l'élection s'est déroulée dans la transparence, mais il justifie notamment son échec par ce qu'il qualifie de corruption orchestrée par la majorité présidentielle qui s'est servie des deniers publics des contribuables, notamment pour corrompre les députés provinciaux. Joseph Kongolo.
C'est une caractéristique des élections en Afrique. Nous avons une conception culturelle du pouvoir qui est proche de ce qu'on appelle le paternalisme. Voyez-vous ? Le paternalisme, c'est-à-dire une autorité paternaliste. Donc, quand on est au pouvoir, on considère que les biens matériels, immatériels, tous appartiennent au chef. C'est le chef qui doit être fort, c'est celui qui a le pouvoir, qui doit être fort, ainsi de suite et tout ça. Ça, c'est la conception culturelle du politique en Afrique, en fait. Donc, il faut jouer avec ça, en fait. Quand on est au pouvoir, il faut. Quand on est dans l'opposition, il faut jouer avec ça. Il faut jouer avec ça, parce que demain, je sais que quand le MLC sera au pouvoir demain, il ne manquera pas aussi d'utiliser les biens publics, n'est-ce pas, pour gagner ses propres élections. Ce qui est vrai, c'est que c'est une maladie, n'est-ce pas, c'est une maladie, mais c'est une réalité africaine.
Il y a un auditeur, Jean-François Ngando de Mbandaka, à l'Équateur, qui dit « Je mets ma main à couper pour démontrer que tous les candidats ont donné de l'argent. »
C'est encore une maladie. Nous l'avions dit, je crois que même sur vos antennes, on le dit régulièrement, la corruption est aujourd'hui un mode de gestion. Les gens croient que c'est par les élections, n'est-ce pas, qu'on peut atteindre des objectifs. Or, plus on corrompt, spirituellement, culturellement, on a tendance à faiblir. Ça, je ne saurais pas le confirmer, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une maladie nationale aussi. Vous savez que nous sommes classés parmi les 5 derniers pays, n'est-ce pas, en termes de corruption. Je crois que c'est une maladie nationale. Mais il faut compter ça avec ça. Si tout le monde a donné, pourquoi celui-là est passé et l'autre n'est pas passé? Donc, en fait, c'est une maladie nationale. Et je comprends que le jeu démocratique est faussé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est faussé et on est en train de travailler dans les marges de la démocratie. Et dans les marges de la démocratie, il n'y a pas de raison d'espérer. Ça, il faut le dire sincèrement.
Sir Ruben Okende, très rapidement, répondait à Maître Lenga qui semblait revenir sur cette brigade de recouvrement dont vous parliez en début d'émission.
Eh ben, je vais tranquilliser Alexis, hein, lui recommander un peu de retenue parce qu'il est allé au-delà peut-être de sa pensée. Ben, moi, je me dis qu'il se sent morveux ce mouche. Je ne l'ai pas cité. Je n'ai pas cité un quelconque député ou candidat au gouvernorat pour l'avoir fait. Donc, si lui se sent morveux, ce n'est qu'à lui de se moucher. Et en plus, moi, je n'ai pas insulté le peuple de l'Équateur. Ce n'est pas ma culture. Au contraire, moi, je pense que lorsqu'on parle de corruption, donc il y a des corrompus. Celui qui insulte les députés provinciaux de l'Équateur, des corrompus. Donc il faut que, quelque part, nous sachions, au lieu de faire de l'amalgame, ce que nous disons. Ici, je pense que même Joseph Kongolo a soutenu l'idée que l'Équateur a connu toutes les formes de crise possibles. Et cela n'a pas honoré cette province-là. L'immaturité politique, c'est de sustenter des crises inutiles et finalement, la province est en train de reculer au lieu d'aller de l'avant. Et maintenant, moi je pense que le choix de Koya Diallo, qui n'est pas conflictuel pour la conflictualité, nous savons qu'il y a des opérateurs politiques qui, eux, pour la partisanerie, ils peuvent sacrifier les intérêts de toute une province. Alors, je crois que c'est une opportunité pour ce peuple de l'Équateur qui a été beaucoup humilié par ces conflits inutiles, de pouvoir se resserrer ses rangs pour relever les défis qui sont beaucoup plus importants. Moi, j'estime que, au lieu de se cacher derrière le mot, je crois que celui qui est, si c'est secrétaire national du MLC chargé de l'idéologie, comment vous avez présenté Alexis Lenga, ben, il doit réfléchir en profondeur. Toutes ces fragilités viennent du MLC.
comment il ne s'interroge pas, lui, sur le fait que Jean-Lucien Boussa, un homme si équilibré et intelligent que Boussa, se soit présenté en candidat indépendant. Il y a un problème.
Et du côté et de la majorité, c'est plus facile à manipuler.
Je prends. Oui, on prête toujours l'intention, l'angélisme, c'est de l'autre côté. Et ce sont des raccourcis qu'il faut abandonner en politique. Parce qu'en politique, on ne se donne pas de cadeaux, on cherche à conquérir le pouvoir. Les fragilités du MLC depuis le temps Baïndé. Savez-vous que même Baïndé avait été élu sur la liste du MLC? Ils doivent s'interroger au lieu de voir le diable dans l'autre. Quelles sont vos faiblesses qui font en sorte que vous perdiez le pouvoir? Alors, maintenant que la mauvaise culture, c'est de toujours se décharger sur les autres, on cherche le bouc émissaire dans la majorité. Moi, je dis que c'est une mauvaise pratique de la politique. La culture, la conception culturelle de la politique, telle que l'a relevé Joseph Kongolo, je crois que c'est pour une frange. Il ne doit pas non plus utiliser une certaine pudeur. Si cette conception est viciée du côté d'une famille politique ou d'une organisation politique, il faut bien le dire. Il ne faudra pas généraliser pour faire, pour montrer que non, bon, ce sont toutes les formations politiques qui vont dans des enjeux aussi importants en ordre dispersé. Merci. Moi, je pense que la politique avec l'inconséquence, ça ne fait pas bon ménage.
Maître Linga, est-ce que vous nous suivez?
Très bien, je vous suis.
Voilà, je vous propose qu'à certains moments, lorsque je souhaiterais avoir quelques précisions de votre part, vous me donniez la possibilité de le faire. C'est également pour éclairer la lanterne des auditeurs qui nous suivent. Alors, Maître Linga, dites-nous, pourquoi Jean-Lucien Boussa s'est-il présenté comme indépendant, lui qui est de l'opposition, du MLC précisément?
Oui, mais merci, monsieur le journaliste. Mais je pense bien que si vous regardez la liste de ceux qui se sont présentés à la course de poste de gouverneur, vous verrez qu'il y a des candidats qui étaient dans leur parti politique, mais qui se sont présentés en indépendant, et les premiers ne s'est pas présentés. Et la même critique n'est pas présentée. Mais cette critique se présente tout simplement parce qu'il s'agit de Jean-Lucien Boussa. Donc nous avons dit que ce que la loi interdit que quelqu'un qui appartient à un parti politique, lorsqu'il s'agit d'une course électorale pour se présenter en indépendant. Nous prenons l'exemple au sommet de l'État. Lorsque le président de la République, qui est celui qui a généré le PPRD, comme on a toujours dit, et lorsqu'il s'est présenté en indépendant, moi je pense que personne ne s'est élevé pour dire que, étant du PPRD, pourquoi il se présente en indépendant. Donc je pense bien que le problème d'indépendant ou de surliste de parti, ce n'est pas là le problème. Alors, ceux qui en ont fait le problème, nous avons bien senti que ce sont ceux-là qui ont fait des intoxications.
Maître Linga.
Auprès des députés, députés et provinciaux, auprès de l'opinion, qui ont voulu tout simplement profiter pour gérer les dossiers en faveur des candidats de la majorité.
Alors,
voilà le problème des candidats indépendants.
Maître Linga, nous allons d'ici là aborder une autre partie importante qui concerne les défis. Mais avant ça, une autre question. Jean-Lucien Boussa a dénoncé la démocratie d'argent. Il incrimine la majorité présidentielle. Selon lui, l'argent aurait circulé. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous avez des preuves?
Oui, on ne parle de preuves que lorsqu'il s'agit d'une procédure judiciaire. Nous sommes en politique. Je prends au hasard l'exemple donné par mon frère Joseph Kongolo, lorsqu'il dit que les députés sont errés, enfin ils errent partout, ils ne sont pas encadrés par le MLC. Moi je dis que cette considération donne une raison de plus pour dire que non, d'abord, cela ne tient pas. Lorsqu'on est élu, lorsqu'on se présente, on est adulte, on n'a pas besoin d'être encadré. Parce qu'on a choisi, n'est-ce pas, son parti par la force de son idéologie. Donc, c'est un exemple pour vous montrer que lorsqu'on est dans son parti politique et on dit que, voilà, les cadres, les élus de ces partis politiques errent, ça dit que c'est déjà une piste pour montrer qu'il n'était pas fidèle au parti. Lorsque Vous savez la situation qui s'est passée avec le député de la province de l'Équateur. 3 ans et demi, on les a contraints dans les conditions d'accepter quoi que ce soit. Et vous savez les sources de ces conditionnements où les députés étaient mis dans les conditions de quémander, d'aller faire des prêts à intérêt qu'on appelle couramment à Mbandaka et Kotama. Je pose la question, qui a mis les députés dans ces conditions-là? Mais lorsque un Congolais, un analyste dit que les députés du MLC errent ici et là parce qu'ils ne sont pas cadrés, ne sont pas là les indices de la corruption. Voilà le problème. Je ne voudrais pas qu'on profite de propos tenus par un candidat pour laisser les vrais problèmes, le vrai débat sur la configuration politique de la province de l'Équateur. Vous-même, vous l'avez dit, vos correspondants l'ont dit, même la Radio France Internationale l'a dit, en disant que voilà l'opposition, c'est le fief, l'Équateur c'est le fief de l'opposition, et que la majorité utilisait les moyens qui ne sont pas propres pour cette campagne.
Merci maître Linga, je vous redonne la parole tout à l'heure. Joseph Kongolo, nous abordons avec vous la deuxième partie de cette émission. Quels sont les défis qui attendent le nouveau gouverneur? Nous allons prendre cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Abakouk Falia Lakiza, à partir de Lubumbashi, dans la province du Katanga. Nous saluons son élection à la tête de cette province, car M. Koyagialo a de l'expérience pour diriger cette province. Il a montré ses preuves quand il était gouverneur de la province du Katanga, à l'époque ex-Chaba, où il avait dirigé avec brio cette province. Et jusqu'aujourd'hui, il a de l'estime et de la sympathie de la population du Katanga. Nous espérons qu'il va bien diriger la province de l'Équateur. Et il a un deuxième atout, c'est un proche collaborateur du chef de l'État. Il aura donc son appui total pour bien mener son programme, afin d'améliorer l'image du président de la République dans cette province réputée de l'opposition.
Joseph Kongolo, pour vous, quels sont les défis à suivre l'auditeur que nous venons de suivre? Koyagialo est-il condamné à réussir?
En fait, c'est vrai, il est condamné à réussir. Mais où est-ce qu'il doit réussir? C'est l'Équateur. L'Équateur qui est une province formelle, en fait. Là où il n'y a pas la cohésion. Là où il n'y a pas l'unité. Là où il y a des querelles mal éteintes. Voyez-vous? Là où il y a des guerres. Le vandalisme. Donc, il y a toutes sortes, comme je l'ai dit au départ, toutes sortes de crises. Et M. Koyagialo doit arriver à mettre de la cohésion. Comment doit-il faire pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à mettre la cohésion au sein de la province de l'Équateur? Tout ce que M. Abakouk a dit est correct. Il a de l'expérience, il est proche du chef de l'État, mais il n'y a pas que ça. La légitimité institutionnelle, la légitimité électorale ne suffit pas pour réussir. Il y a une autre légitimité, c'est celle d'abord de consolider la cohésion nationale. Deuxièmement, la légitimité de l'action gouvernementale. Il faudra que les politiques qu'il va construire pour mettre sur pied réunissent tout le monde. Que ces politiques fassent participer au niveau de la conception des finalités, les masses. Fassent participer au niveau de l'exécution de ces projets, les masses. Et aussi au niveau de leur évaluation. Alors, si vous vous détachez des masses dans la conception des finalités, dans la conception des objectifs ou encore des politiques, à ce moment-là, vous allez imposer aux masses des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, vous allez continuer à maintenir les divisions. Et en ce moment-là, qu'est-ce que ça devient? Ça devient de la féodalité, c'est-à-dire que vous allez élargir tout simplement les inégalités au sein de la population, et ce sont ces inégalités qui sont à la base de toutes ces divisions. Ça, c'est la première chose. La deuxième qui vous dit, il faut que lui-même crée une autre capacité de créer sa propre légitimité. Il faut qu'il se fasse accepter sous les masses. En fait, on a dit que c'est une élection au second degré, n'est-ce pas? Il a été meilleur, n'est-ce pas, au vu et su, n'est-ce pas, des députés provinciaux, qui ne sont que 104, si je ne m'abuse, 104 députés. Mais il y a toute une population. Donc, il doit créer sa propre légitimité au sein des masses. Et cela passe par l'action gouvernementale, passe par d'autres méthodes, n'est-ce pas, qu'il doit utiliser dans la gestion et dans les objectifs à atteindre.
Il doit créer sa propre légitimité. Il y a Papi Kalondero de Butembo Nord-Kivu qui dit, nous connaissons bien les attitudes des députés de l'Équateur concernant certains intérêts politiciens envers les gouverneurs déjà passés. En effet, pour y arriver, il faut être libéré de certaines entraves intérieures. Cela est-il possible, Joseph Kongo?
C'est possible. Je crois que...
À quel prix?
C'est possible. Un homme politique, il doit d'abord faire une autopsie sévère de la situation qu'il trouve sur le terrain, avant de concevoir une thérapeutique. Et lui, il a de l'expérience. Lui, il est fils de l'Équateur. Je crois qu'il est notable de l'Équateur en même temps. Il connaît les problèmes qu'il y a. Je crois qu'il doit les attaquer à la racine et arriver à faire du thérapeutique qui convient pour pouvoir mettre tout le monde ensemble autour d'une table et mettre la province sous les rails du développement. Mais, écoutez, mais l'homme lui-même, au-delà de toute cette expérience, au-delà, n'est-ce pas, de sa proximité, n'est-ce pas, du chef de l'État, je crois que c'est quelqu'un qui est monté très vite, qui atteint très vite l'apogée, mais aussi qui a la facilité de tomber dans la perversion. Et ça, je le connais. J'ai été étudiant à l'université de Lubumbashi. Je connais un rôle qu'il a joué, n'est-ce pas, dans ce qui est resté comme une vestige inoubliable de soi dans nos vies. Donc, je ne voudrais pas que cette fois-ci, qu'il tombe aussi vite dans la perversion et surtout qu'il reste un partisan fidèle et éclairé au lieu, n'est-ce pas, d'être servile dans la fidélité.
Cher Ruben Okende, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kigali au Rwanda.
Shadrack Akilimali Fialiwa, j'interviens à partir du Rwanda dans la ville de Kigali. N'attendons pas grand chose de cette élection. Après Baende, sera égal à Baende. Ce sont des oiseaux des mêmes plumages. C'est les mêmes joueurs qui n'ont fait que changer de vareuse. Celles les nouvelles élections provinciales qui tardent à venir, résoudant cette crise récurrente en Équateur. Wait and see.
Il n'a pas mis ses gants, hein, Ruben Okende, réaction.
Oui, tout à fait. Il sera désillusionné parce que Koya Gyalo ne sera pas égal à Baende. Donc ça, c'est clair. Et il faut se le tenir pour dit. Et en plus,
alors pour aller au-delà des personnes, c'est quoi les défis?
Voilà. D'ailleurs, le culte de personnalité, ça, c'est pas le fort de Ruben Okende. Je suis pas flatteur. Non. D'abord, les grands défis, c'est la cohésion de l'Équateur. Et je crois que le gouverneur Koya Gyalo en a les capacités. Ici, ce que je peux, j'espère bien qu'il peut nous suivre, il ne doit pas se considérer comme étant le gouverneur de la majorité, ça n'existe pas. Il est le gouverneur de la province de l'Équateur, donc tous nos compatriotes de l'Équateur, majorité ou pas majorité, il est leur gouverneur. Et les capacités morales que Koya Gyalo a, il est capable de pouvoir fédérer maintenant tout le monde pour qu'on ne mette au devant que les intérêts de la province de l'Équateur, de tous nos compatriotes de l'Équateur et même ceux au-delà de l'Équateur, il y a nous tous parce qu'en fait l'Équateur fait partie de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de voir toutes nos provinces évoluer. Grand défi socio-économique. Aujourd'hui, la province de l'Équateur est parmi les provinces qui ne sont pas, si je peux chercher un mot atténué, qui ne sont pas privilégiées. La province de l'Équateur est en retard. Et pourtant, cette province ne manque pas de potentialité. Ce sont ces querelles byzantines qui ont distrait la population active, qui est très vivante de la province de l'Équateur. Et aujourd'hui, elle est en retard par rapport à certaines autres provinces. Et je crois que cette réalité, son expertise, son expérience permet à Koya Gyalo de pouvoir palper. Il faut suivre un peu le projet ou la vision d'un homme d'État pour comprendre s'il Merci. Sera capable ou pas. Moi, je crois positiver les choses. Il doit travailler d'arrache-pied. Le socle de son action, de sa réussite, Merci. C'est d'abord la cohésion de fils et filles de l'Équateur.
Voilà. Souffrez que je vous arrête à ce niveau parce qu'il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Maître Linga, est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous suis très bien.
Alors, pour vous, très rapidement, quels sont les défis qui attendent le gouverneur Koya Gyalo?
Oui, merci. Je pense bien que ces défis ne peuvent tourner qu'autour de la démocratie. Vous savez, les problèmes qui se posent en Afrique, c'est plus le problème de la démocratie. La démocratie est la cure de la paix. Lorsqu'on parle de conflictualité, lorsqu'on parle des problèmes
à l'Équateur, comme mon frère Joseph venait de le dire tout à l'heure. Je veux dire tout à l'heure que lorsque un candidat est imposé, il est difficile, comme a dit mon frère Joseph, Congolo, de forger une propre légitimité. Donc, au lieu de dire que le défi qui attend Kouyagelo, il y a autant de défis, mais on ne peut pas parler de défis, prenons par exemple du développement, parce qu'on sait que la province de l'Équateur, c'est la toute dernière province sur toute la province de la République démocratique du Congo. Nous pensons bien que les rapports de la Banque mondiale sont clairs là-dessus, le PNUD, mêmement. Mais nous disons qu'il y a déjà un premier défi. Lorsqu'on est imposé à la population, cette imposition ne produit que la frustration. Parce qu'on dit que mieux gérer, c'est la complicité entre la population et le gouvernant. Cela, c'est pas la voie démocratique.
Merci.
Mais lorsqu'il n'y a pas cette légitimité, nous pensons bien qu'il y a un défi important. Et on dit qu'à ce moment-là, il n'y a pas question de parler des défis parce qu'il n'y a pas légitimité. C'est ce que moi j'ai pu dire, monsieur le journaliste.
Merci, maître Joseph Kongolo. Réagissez directement au propos de maître Lenga qui pense qu'être imposé, ça pose déjà des problèmes. C'est déjà le premier défi, ça.
Non, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il n'a fait que paraphraser ce que j'avais dit, je l'espère. J'ai dit qu'il y a une manière de créer sa propre légitimité au sein des masses. Alors, si on n'arrive pas à créer sa propre légitimité au sein des masses, eh bien, les divisions ne s'arrêtent pas et cette cohésion, qui est le socle, n'est-ce pas, d'un développement, n'aura pas lieu. Alors, en ce moment-là, ça deviendra difficile. Donc, plus ça change, plus c'est toujours la même chose. En ce moment-là, on va toujours continuer dans les mêmes pleurs et dans les mêmes problèmes. Mais si lui-même arrive, n'est-ce pas, à créer sa propre légitimité au sein des masses, en ce moment-là, n'est-ce pas, il peut avoir la possibilité d'appliquer des politiques qui mettent tout le monde ensemble et qui impliquent tout le monde dans les processus de développement.
Et maintenant que la configuration politique au niveau de la province de l'Équateur semble ne plus être claire, Joseph Kongolo, créer cette propre légitimité passerait par quoi exactement?
Bon, je l'ai dit tout à l'heure, là, créer sa propre légitimité, ça veut dire, c'est d'abord arriver à mettre tout le monde ensemble autour d'un projet, un projet politique, un projet de développement au niveau de la province. Mettre tout le monde ensemble au niveau de la conception, au niveau de l'exécution et au niveau de l'évaluation. En ce moment-là, tout le monde se sent concerté dans l'action gouvernementale du gouverneur. Et là, ça devient plus facile, n'est-ce pas, de ressouder, de créer des solidarités agissantes, n'est-ce pas, qui vont renforcer, n'est-ce pas, cette légitimité et l'action gouvernementale d'ailleurs. Donc, je crois que c'est aussi une manière de le faire. Il y en a plusieurs autres, n'est-ce pas, qu'on peut construire et tout ça pour pouvoir mettre les gens ensemble et appliquer une politique qui soit un bien commun de tous.
Alors, sans être prophète, Joseph Kongolo, en guise de conclusion, quelles sont les chances que vous accordez à Kouyagalo?
Bon, je leur accorde quand même quelques chances, mais c'est pour combien de temps? C'est ça le problème, c'est pour combien de temps? Parce que bientôt, je crois que c'est cette année ou début de l'année prochaine, il y aura de nouvelles élections. Je crois que s'il peut stabiliser la province, s'il peut pacifier la province, je crois que ce sera déjà quelque chose d'objectif à son actif.
Cher Ruben Okende, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'avenir de la province de l'Équateur avec Louis Kouyagalo à sa tête?
D'abord, il faut évacuer certaines incongruités que je suis en train de suivre, qui a dit que Kouyagalo n'avait pas de légitimité. Être élu au second degré par des députés provinciaux, c'est manquer de légitimité. Ma foi, de quoi on parle? Je pense que c'est pas ça le débat. Il faut pas travestir la trame de la véritable question. Maintenant, par rapport aux chances, moi je crois que tout dépendra également de ce peuple vaillant, clairvoyant de l'Équateur, qui a été laminé par ces différentes crises inutiles, la conflictualité pour la conflictualité. Le pari à gagner maintenant, c'est la cohésion pour voir les intérêts supérieurs de la province. Et Kouyagalo est capable de pouvoir fédérer des synergies pour créer cet intérêt commun de tous les enfants de l'Équateur.
Maître Lenga, quelle chance accordez-vous à Kouyagalo en guise de conclusion?
Oui, je dis qu'il n'y a pas de chance parce que là, vous m'amenez à revenir sur la désignation de Bayende. Bayende a été désigné de la même manière. Et qu'est-ce que Bayende a fait pour la population? Parce que je dois dire à mon frère Okende, quand on parle des élections de deuxième degré, c'est une élection qui n'est pas en déphasage. Ça ne doit pas absolument être en déphasage.
Merci. Merci, maître Lenga. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.